Chapitre 45. 17 août 1994. 22h. Le caveau de la famille Beau est situé au bord de la route nationale, celle qui longe le mur gauche du cimetière communal. Pierre Beau repose près de sa femme et d'ancêtre qui porte son patronyme mais qu'il n'a jamais connu. On l'a enterré il y a quelques heures. Une soirée étoilée, un bruit de moteur, une faible lumière venant de la route éclaire brièvement ses noms et prénoms, gravés dans le marbre. Ce sont les phares d'une camionnette bleue où toutes ces maigres affaires, entassées les unes sur les autres à l'arrière, filent en direction de la Bretagne, Finistère Sud. Ainsi va la vie, ainsi vont les choses. Ainsi font les petites marionnettes, chantait Odile à sa fille en agitant ses jolies mains. Marion est sur le siège passager à côté d'Artus, un ancien marin devenu brocanteur, ferrailleur. De Bénodet à Quimper, tout le monde l'appelle le débrouilleur, parce qu'il trouve toujours la pièce ou l'objet recherché. Cela va de l'agent talus pour la Renault 5 GTL au salon du jardin anglais en passant par une barrette de shit ou un album original des Beatles de 1966. Un seul coup de téléphone, une requête, Artus répond « Je vais voir ce que je peux faire » et finit par trouver. Seul Marion appelle Artus « Mon cœur ». Elle laisse le débrouilleur aux autres, vu qu'avec elle, il s'y prend nettement moins bien qu'avec les antiquités. Au même moment, la petite fille de Pierre Beau est elle aussi assise sur le siège passager d'une voiture. Elle file en direction de la propriété d'Amam, un peu excentrée, à l'orée d'une forêt domaniale. Nina l'ignore, mais lorsque ses grands-parents étaient jeunes mariés, ils aimaient se promener à vélo du côté de ce qu'ils appelaient le château. Pierre et Odile passaient devant la grille toute l'année, et l'hiver, au loin, quand les arbres étaient nus, à travers les grandes fenêtres comme des tableaux de lumière, ils comptaient les pièces éclairées par de beaux lustres en observant les ombres à l'intérieur. Jamais ils n'auraient pu imaginer qu'un jour leur petite fille ferait partie de ces silhouettes. Dans chaque ligne droite, le regard d'Emmanuel quitte la route pour observer le profil de Nina. Elle a les traits tirés. Plus ils approchent de chez lui, plus les réverbères se font rares. Le visage de la jeune femme est plongé dans l'obscurité, jusqu'à disparaître complètement. Depuis qu'Emmanuel est passé la prendre, elle n'a rien dit. Il s'était assoupi quand le téléphone a sonné. Cet appel, il l'attendait. Ce « viens me chercher » est un cadeau du ciel. La mort de ce grand-père, une bénédiction. Ironie du sort, c'est un camion de la société familiale qui l'a renversé. Emmanuel est catholique. Lui qui a fait sa communion et sa confirmation se demande s'il s'agit d'un signe, d'un coup de pouce du divin. Il a eu peur de perdre Nina après l'enterrement. Il a pensé ne jamais la revoir. Parce qu'il y a ces deux gamins qu'il ne la lâche jamais. Ceux avec lesquels elle doit partir vivre à Paris. Pour l'instant, elle ne dit rien. Semble hébétée, fixant la route les yeux vides. Mais tout à l'heure, quand ils seront l'un contre l'autre, qu'elle se blottira contre lui, elle parlera. Elle aura suffisamment confiance pour raconter ce que la douleur d'une mort subite peut faire souffrir. À vous crever les organes, comme des coups de couteau sans anesthésie. Comment elle enferme tout, dont les projets d'avenir. Elle saura parler de son enfance, de sa mère, de cet homme qu'elle a vu remonter de la cave en pleine nuit, emportant dans un carton ses poupées, le peu qu'il possédait, elle et son grand-père. Puis de cette femme, sa cigarette, son odeur, sa peau, son jean, sa voix, la camionnette bleue, les affaires disparues, jusqu'au sel et au pot de moutarde entamé. Marion est le grand type. Tout à l'heure, Nina a tout imaginé sans penser qu'il pourrait être son père, n'ont rien laissé. Comme des chiens qui auraient rongé une bête jusqu'à la carcasse. Seule sa chambre a été épargnée. Pour se donner bonne conscience? Ceux qui détroussent un mort ont-ils une conscience? Nina parlera plus tard, sur l'oreiller. Et Emmanuel saura trouver les réponses, les mots justes. Il la rassurera, l'aimera. Pour l'instant, il lui sert un verre, puis un deuxième. Du whisky pur, sans glaçons ni soda. Nina est à jeun. Elle les vide à la vitesse d'une habituée de comptoir. La tête lui tourne, c'est presque immédiat. Elle met de la musique entre deux gorgées, choisit un morceau de The Cure, Boys Don't Cry. Nina est soulagée d'être dans cette maison, à la fois étrangère et déjà familière. Tout à coup, la mélodie et la voix de Robert Smith la ramènent à Adrien et Étienne. Il lui manque violemment. Elle cherche leurs mains. Elle ferme les yeux pour les oublier, comme on claque deux portes derrière soi. Elle se met à danser, là, au milieu du salon, sous les yeux d'Emmanuel qui la désire ardemment. À chaque fois qu'il est près d'elle, il réprime de violentes pulsions. C'est comme s'il voulait la chérir et la meurtrir à la fois, l'écraser et l'embrasser. Il a peur de ce qu'il ressent. C'est comme un étranger que Nina réveille en lui, un être sombre tapis dans un coin. Emmanuel pense que ça va passer, qu'il a tellement envie d'elle que ça met un peu le bordel dans ses sentiments. C'est sans doute ça qu'on appelle un coup de foudre. Quelle connerie. Nina bouge en rythme, pieds nus, les bras écartés, chantant « Boys don't cry ». Emmanuel s'approche d'elle, convoque toute sa douceur, se colle dans son dos, suit ses mouvements. Il danse corps à corps, elle gémit. Il la prend dans ses bras, l'emmène jusqu'à la chambre, puisqu'elle l'a voulu, puisqu'elle lui a dit « Viens me chercher ». Adrien ouvre les yeux. Le radio réveil indique 22h04. Nina n'est plus dans le lit. Sa place est froide. Il l'appelle. Sa voix réveille Paola, qui se lève difficilement et descend dans la cuisine vers sa gamelle d'eau. Adrien suit la chienne. La porte d'entrée est entrouverte. Il appelle à nouveau Nina, remonte à l'étage et la cherche dans les pièces vides. Cette maison nue est inquiétante, un décor de film d'épouvante. Une question le hante. Qui l'a dépouillée? Il a du mal à croire à cette histoire de cambrioleur. Adrien a soudain peur de croiser le fantôme de Pierre Beau. Il frissonne. Et si c'était lui? S'il n'était pas vraiment mort? Si c'était quelqu'un d'autre, là-bas, dans le cercueil? Après tout, il n'a pas vu son visage le jour de l'accident. Juste des jambes, le reste du corps était recouvert par un drap. N'importe quoi. Ce serait trop facile si nos morts ne mouraient pas. Les revenants et les mystères appartiennent au cinéma et à la littérature, pas à la vraie vie. Dans la vraie vie, son père est un con, et Nina est désormais seule. Où est-elle? Il sort dans le jardin, s'érafle les pieds sur le gravier, trois chats dans les jambes, mais personne. Est-elle partie marcher? Il réfléchit, planté entre les hortensias et deux arbres fruitiers maigrichons. Tout à coup, il sent une présence dans son dos, comme une ombre menaçante, presque collée à lui. Il se retourne en hurlant. Il ne l'a pas reconnue tout de suite. Adrien pense qu'Étienne a fait exprès de lui faire peur. Il adore ça, les mauvaises blagues. Adrien lui lance dans une colère non feinte. Tu m'as foutu une de ces trouilles, t'es malade! D'habitude, en pareille circonstance, Étienne se marrerait, il jubilerait. Mais il reste sans voix, fixant Adrien de ses yeux fous. Un court silence. Adrien a peur de comprendre. C'est Nina? Il est arrivé quelque chose à Nina? Interroge-t-il d'une voix blanche. Non. Étienne pénètre dans la maison. Il a l'air abattu. Adrien le suit, perdu. Qu'est-ce que t'as? Où est Nina? Insiste Adrien. Qu'est-ce que j'en sais? Vous étiez pas censés être ensemble? On était ensemble, mais elle s'est volatilisée. Étienne lève les mains comme s'il s'en fichait. Adrien ne saurait traduire exactement ce geste. Étienne finit par lâcher, fataliste. C'est Nina. Il monte à l'étage, se met en slip et se jette sur le lit, rabat le drap sur lui malgré la chaleur, ferme les yeux. Adrien l'observe. En plus de l'alcool, il sent la vase, cette odeur qu'ils ont tous sur la peau après une baignade dans le lac. D'habitude, Étienne se douche après parce que ça pue l'œuf pourri. Adrien ne comprend pas. Et puis, Étienne n'est jamais si bilain d'ordinaire. Et maintenant, il semble s'endormir là, rond comme une queue de pelle, dans le lit de Nina, alors que cette dernière a disparu. Tu t'en fous de savoir où est Nina? demande Adrien. Et puis tu devais pas être avec Clotilde ce soir ? Viens, lui répond Étienne.